France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Depuis l'enfance, on me disait que j'étais inférieur, que j'avais une place où il fallait rester, et tout ça, enfin, parce que je suis noir. Et maintenant, alors, les humiliations sont beaucoup plus subtiles, je dirais, vous voyez. Mais on sait très bien que ça reste, ça dure, vous voyez.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. J'aurais trouvé plaisir et intérêt, de toute façon, à accueillir Denis Lacorne pour converser avec lui autour du livre précieux qu'il vient de publier sous le titre « De la race en Amérique ». Mais je ne surprendrai personne en disant que la conjoncture est faite pour stimuler l'intérêt qu'on ressent à traiter aujourd'hui de ce thème. Un thème qui appelle spécialement le regard fécond de la longue durée. Avant de rejoindre l'intensité des affrontements contemporains, Denis Lacorne nous conduit vers les origines d'une tension qui travaille les États-Unis depuis leur naissance. Une tension entre, d'une part, la défense et l'illustration du principe de la liberté individuelle et des droits civiques, et d'autre part, la privation de leurs bienfaits infligés aux Indiens, puis aux Noirs, et bientôt à un flux d'immigrés à la fois indispensable et angoissant. D'un côté, un projet politique se voulant indifférent à la couleur et à la généalogie des personnes. De l'autre côté, une conception de la République confrontée à la hantise lancinante de l'effacement de la race blanche originelle au profit des nouveaux venus, à quelque moment qu'ils soient arrivés ou qu'ils aspirent à le faire. Dans une nation qui a continué de se nourrir ainsi d'apports humains venus d'ailleurs, et qui est profondément métissé, les cibles et les formes du racisme ont constamment évolué. Tandis que l'idéal abstrait d'une unité est aujourd'hui assailli par le défi des communautés qui sont enclines de plus en plus à revendiquer leurs différences aux dépens d'un récit national. Denis Lacorne, directeur de recherche émérite au Centre d'études internationales de Sciences Po, n'a jamais cessé de vivre et d'enseigner aux États-Unis dans les universités les plus prestigieuses. Il mêle la science de l'historien et du politiste à la lucidité de l'observateur. J'espère réussir à vous en faire profiter. Et d'abord, Alexis de Tocqueville, une lettre à sa mère, en décembre 1831.
Vous saurez donc que les Américains des États-Unis, gens raisonneurs et sans préjugés, de plus grands philanthropes, se sont imaginés, comme les Espagnols, que Dieu leur avait donné le Nouveau Monde et ses habitants en pleine propriété. Ils ont découvert en outre que, comme il était prouvé, écoutez bien ceci, qu'un mille carré pouvait nourrir 10 fois plus d'hommes civilisés que d'hommes sauvages, la raison indiquait que partout où les hommes civilisés pouvaient s'établir, il fallait que les sauvages cédassent la place. Voyez la belle chose que la logique. Conséquemment, lorsque les Indiens commencent à se trouver un peu trop près de leurs frères les Blancs, le président des États-Unis leur envoie un messager, lequel leur représente que, dans leur intérêt, bien entendu, il serait bon de reculer un tant soit peu vers l'Ouest. Les terres qu'ils habitent depuis des siècles leur appartiennent, sans doute. Personne ne leur refuse ce droit incontestable. Mais ces terres, après tout, ce sont des déserts incultes, des bois, des marais, pauvres propriétés, vraiment. De l'autre côté du Mississippi, au contraire, se trouvent de magnifiques contrées où le gibier n'a jamais été troublé par le bruit de la hache du pionnier, où les Européens ne parviendront jamais. Ajoutez à cela des présents d'un prix inestimable, des barriques d'eau-de-vie, des colliers de verre, des pendants d'oreilles et des miroirs. Le tout appuyé de l'insinuation que, s'il refuse, on se verra peut-être contraint de les y forcer. Que faire ? Les pauvres Indiens prennent leurs vieux parents dans leurs bras, les femmes chargent leurs enfants sur leurs épaules, la nation se met enfin en marche, emportant avec elle ses plus grandes richesses. Elle abandonne pour toujours le sol sur lequel, depuis 1000 ans peut-être, ont vécu ses pères, pour aller s'établir dans un désert où les Blancs ne la laisseront pas 10 ans en paix. Remarquez-vous les résultats d'une haute civilisation ? Les Espagnols, en vrais brutaux, lâchent leurs chiens sur les Indiens comme sur des bêtes féroces. Ils tuent, brûlent, massacrent, pillent le Nouveau Monde comme une ville prise d'assaut, sans pitié, comme sans discernement. Mais on ne peut pas tout détruire. Le reste des populations indiennes finit par se mêler à ces vainqueurs, à prendre leurs mœurs, leur religion. Les Américains des États-Unis, plus humains, plus modérés, plus respectueux du droit et de la légalité, jamais sanguinaires, sont plus profondément destructeurs de leur race, et il est impossible de douter qu'avant 100 ans, il ne restera pas dans l'Amérique du Nord, non pas une seule nation, mais un seul homme appartenant à la plus remarquable des races indiennes. Sur le Mississippi. Lettre à sa mère, le 25 décembre 1831.
Denis Lacorne, bonjour.
Bonjour.
Ce texte était lu par Arnaud Bédouet dans Une vie, une œuvre de Jacques Munier sur France Culture le 16 février 2003. Nous allons naturellement commenter ce document de l'immortel auteur de la démocratie en Amérique. Mais auparavant, je voudrais vous conduire vers deux épisodes tout récents qui me paraissent conduire vers notre problématique. Je veux dire les jeans de Sidney Sweeney et la goutte de sang noir qui circulerait dans les veines du nouveau pape. C'est assez divers, mais d'une certaine façon congruent.
Absolument. C'est-à-dire ça montre que tout est racialisé aux États-Unis, pour le bien ou pour le mal, et on ne peut pas s'empêcher de raisonner en termes de gêne ou en termes de goutte de sang noir. La goutte de sang noir, dans la tradition américaine, qui oppose les Blancs aux Noirs, c'est... Quels que soient vos ancêtres, s'il y a une seule goutte de sang noir, vous êtes noir, même si physiquement, vous apparaissez comme un blanc.
Donc le pape américain serait noir ?
C'est ce qu'on a dit dans le National Catholic Reporter. C'est un prêtre de Louisiane qui a écrit ça au moment de l'élection du pape.
Généalogiste ?
Oui, généalogiste. Fumée blanche, pape noir. Et il faisait allusion au fait qu'en Louisiane, il y avait des ancêtres libres, d'ailleurs des libres de couleur, disait-on à l'époque, venaient de Louisiane, de Cuba, d'Haïti, et qui étaient des ancêtres du pape Léon du côté maternel de sa famille. Et on a même retrouvé dans les registres du recensement la famille de Louisiane qui cochait, ou plutôt on cochait pour elle, parce qu'à l'époque on choisissait pas sa race, on cochait noir. Et puis lorsque cette famille s'est déplacée vers le nord des États-Unis, dans la région de Chicago, aux alentours de 1900, on a retrouvé aussi des registres de recensement, et là la famille cochait blanc. Il était facile à ce moment-là, on appelle ce phénomène-là le passing, c'est-à-dire on passe d'une race à une autre en fonction de la pression sociale, en fonction de l'apparence physique et en fonction des voyages. Donc c'est quelque chose de fluide d'une certaine façon, la race aux États-Unis.
Donc nous sommes déjà au cœur du sujet, mais deuxième épisode qui peut paraître secondaire mais qui ne l'est pas, c'est la question des pantalons, des jeans de Sidney Sweeney. Vous savez, cette jeune actrice blonde aux yeux bleus qui a été promue par deux séries à succès, Euphoria et White Lotus, et qui a tourné plusieurs films publicitaires pour une marque de jeans que je ne citerai pas.
Oui, alors là, c'est un jeu de mots. Jeans, gènes, les gènes. Le jeans, ça se prononce de la même façon aux États-Unis. Et on laisse entendre qu'elle aurait de bons gènes. Parce que aux États-Unis aussi, il y a cette perception, les bons gènes, les mauvais gènes. Lorsque le président Trump rendait visite dans un petit village du nord, une petite ville du nord du Minnesota, il s'adressait à une population qui était essentiellement d'origine scandinave. Le Minnesota est l'endroit où il y a le moins de Noirs aux États-Unis.
Beaucoup de Suédois.
Beaucoup de Suédois, de Scandinaves, de Norvégiens, exactement. Et Trump disait, vous avez de bons gènes. Voilà le type de perception qui circule encore, hélas, aux États-Unis. Il y a les bons gènes et les mauvais gènes.
Alors revenons en arrière, Denis Lacorne, pour resituer ces épisodes contemporains dans la longue durée, ce qui est notre office ici. nous pouvons nous porter vers le XVIIe siècle et vers les débats récents, très intéressants, sur le point de départ véritable des États-Unis d'Amérique.
Oui, alors il y a un très beau chapitre dans le premier volume de la démocratie en Amérique, de Tocqueville, sur le point de départ de la démocratie américaine. Mais comme Tocqueville lui-même s'inscrit dans la très longue durée, du Moyen-Âge, le féodalisme, à aujourd'hui. Et ce qui l'intéresse, c'est les progrès d'une chose qu'il appelle l'égalité des conditions. C'est le moteur de l'histoire pour lui. C'est quelque chose qui progresse, qui ne cesse de progresser depuis l'invention de l'imprimerie, etc., etc. Et il constate que les États-Unis, c'est un peu un laboratoire pour lui de ce qui pourrait peut-être se passer en France, une France qui est encore inégalitaire malgré la Révolution française. Et donc, il y a ce fait générateur, l'égalité. Et quand est-ce que ça commence? Et alors, il y a plusieurs dates possibles. 1607, c'est la découverte de la Virginie par les premiers colons qui viennent à Jamestown. Mais il ne retient pas cette date parce que ce sont des chercheurs d'or, ce sont des aventuriers qui n'ont rien de démocrate et qui n'ont pas de préoccupation démocratique.
Ceux qui viennent sur le Mayflower plus honorables en 1620.
Plus honorables, pas tant à cause de leur religion, mais parce qu'ils ont signé le Mayflower Compact, donc le compact du Mayflower, qui prône l'égalité de tous les passagers du navire et qui, en réalité, est signé pour éviter une mutinerie. Parce qu'il y a un débat sur où va-t-on. Est-ce qu'on va en Virginie ou est-ce qu'on va
à Plymouth,
plus nord, à Plymouth, dans ce qui deviendra le Massachusetts. Et on signe ce compact, qui est très égalitaire, dans la tradition des niveleurs, et qui n'est pas en soi religieux. Donc ça impressionne Tocqueville. Et puis il y a d'autres choses, les municipalités américaines, les townships républicaines, ça l'impressionne beaucoup. Il est très impressionné par le fait que le principe de primogéniture n'existe plus dans une république, ou presque plus. Donc pour lui, tout ça sont des signes d'une démocratie qui progresse.
Et en même temps, c'est vérité quant à la façon dont les Indiens sont traités, nous venons de l'entendre.
Oui, effectivement, et les Indiens sont un peu mis entre parenthèses, mais il a un très beau chapitre plus tard sur les Noirs, les Indiens, les différentes races aux États-Unis, et il vante les mérites des Indiens qui, pour lui, sont dignes des chevaliers du Moyen-Âge ou sont dignes de la Germanie de Tacite. Ce sont des gens fiers, conquérants, réticents à travailler de façon un peu comme les rois féodaux, mais qui ont cette extraordinaire fierté. Donc, il vante le mérite des Indiens et il constate aussi que les Noirs peuvent être libérés, mais sont en fait très maltraités, y compris dans le Nord, lorsqu'ils vivent comme des Noirs émancipés.
C'est là qu'une troisième date intervient, c'est celle de 1619.
Alors, 1619, c'est une date qui a été choisie par Anna Jones, qui est une journaliste et historienne
qui
travaille pour le New York Times Magazine. Et elle a développé ce qu'on appelait le projet 1619. Et le projet 1619, c'est une réécriture complète de l'histoire des États-Unis qui nous dit que, dans le fond, la bonne date, c'est 1619, la date des premiers esclaves qui arrivent en Virginie, sur un bateau qui s'appelle le White Lion, qui est un bateau de pirates anglais. Et la cargaison d'esclaves vient d'un autre bateau qui était, lui, portugais. Donc, voilà, les premiers esclaves, il s'agit d'une vingtaine d'esclaves, débarquent en Virginie et on les échange contre de la nourriture.
Cette controverse sur les dates fondatrices est évidemment très, très stimulante et nous conduit à cette grande question, celle de l'attitude des pères fondateurs, si glorieux par rapport à la question noire. Et quand on s'y attache, comme vous le faites dans votre livre, Denis Lacorne, on s'aperçoit qu'il y a une variété intéressante d'un grand homme à l'autre.
Oui, d'abord, il y a d'autres dates qui s'attachent à eux. Il y a la Déclaration d'indépendance, c'est 1776. Le principal auteur est Jefferson. Et puis ensuite, il y a la Constitution de 1787. Et là, ça implique un autre grand groupe de fondateurs. Mais ce qu'il y a d'intéressant lorsqu'on regarde de près la Déclaration d'indépendance, c'est que, rédigée par Jefferson, la première version, qui n'est pas celle retenue, dénonce en des termes très, très violents les horreurs de l'esclavage. Ces passages-là vont disparaître parce que ça ne plaît pas aux sudistes. Et on gardera une formule plus vague, plus abstraite, qui est quand même importante. C'est la Déclaration proclame l'égalité de tous.
Sans mentionner l'esclavage.
Non, sans mentionner l'esclavage. et sans mentionner les femmes, entre parenthèses, qui, elles, n'auront le droit de vote aux États-Unis qu'à partir de 1920.
Il est tout de même notable que 10 des 12 premiers présidents des États-Unis aient eu des esclaves. Et,
oui.
Et Jefferson que vous évoquez, il vient de paraître une intéressante biographie par Laurent Zecchini de Jefferson, et on peut toujours saluer sa statue devant l'hôtel de la Légion d'honneur quand on passe sur le quai à Paris. Jefferson lui-même avait des esclaves.
Oui.
Il était ambassadeur à Paris.
Absolument. Et Washington avait des esclaves. 10 des 12 premiers présidents qui venaient du Sud avaient des esclaves. Alors Washington a libéré ses esclaves, mais pas ceux de sa femme. Donc il y a une petite limite là. Jefferson, malgré des pressions et son intérêt, puisqu'il a écrit des textes anti-esclavagistes, y compris un projet de loi pour l'abolition de l'esclavage en Virginie, qui est repris dans l'encyclopédie méthodique de Desmonnier, Jefferson va garder ses esclaves parce que il est couvert de dettes et quand il meurt, il veut que sa femme puisse donc voilà.
Il a des descendants encore aujourd'hui.
Exactement.
Qui sont repérés en tant que.
Mais il y a quelques descendants, les Hemings, Sally Hemings, avec qui il a eu des relations intimes, qui aura plusieurs enfants avec Jefferson, et ceux-là seront libérés.
Alors les autres, Franklin par exemple.
Il a eu, semble-t-il, un esclave ou deux, mais il n'a pas gardé d'esclaves. John Adams et son fils John Quincy Adams n'avaient pas été tout à fait opposés à l'esclavage. Donc la situation est complexe. Et en même temps, ce qu'il y a de troublant, c'est que vous pouvez être propriétaire d'esclaves et écrire des textes qui dénoncent l'esclavage.
Les observations sur la Virginie de Jefferson sont un texte que vous mettez à juste titre en lumière.
Oui, et qui est troublant aussi parce que c'est un texte où Jefferson essaye de faire mousser, il essaye de se prétendre aussi scientifique que Franklin, son prédécesseur en France, mais il trouve que les Noirs, finalement, sont inférieurs par l'esprit aux Blancs. Donc il crée une hiérarchie raciale qui est très défavorable aux Noirs. Et en même temps, dans sa correspondance avec Condorcet, par exemple, ou d'autres auteurs français qui sont opposés à l'esclavage, il va essayer de dire qu'en réalité, il va corriger le tir, il va dire non, les Noirs sont aussi doués et intelligents que les Blancs, et il prendra l'exemple du mathématicien noir qui est Banneker. Et là, la conclusion de Jefferson, c'est ce n'est pas, disons, les gènes qui font que les Noirs seraient inférieurs, c'est l'environnement.
Il dit que le Noir est physiquement différent du Blanc par la couleur de sa peau et même de son sang, qu'il transpire plus que le Blanc, qu'il a moins besoin de sommeil, que ses désirs et ses chagrins ne sont que passagers, qu'il est doué de mémoire, de courage et d'imagination, mais moins de raison, etc., etc.
Oui, c'est un texte abominable, il faut bien le reconnaître, mais contradictoire, parce que cet homme qui se prétend être repoussé physiquement par les Noirs aura des relations intimes avec Sally Hemings, qui est une des esclaves de Monticello, et qui viendra d'ailleurs en France pour garder sa fille. Et puis, d'autre part, dans sa correspondance avec Condorcet, alors est-ce qu'il essaye de plaire à des Français qui, eux, sont anti-esclavagistes? Il va prétendre que, dans le cas de Benjamin Banneker, par exemple, qui est un géomètre et mathématicien, tout indique que l'intelligence des Noirs est identique à celle des Blancs. Et il précise, c'est dans le fond l'environnement social qui change les choses. Donc il se contredit. Est-il hypocrite? Je penserais qu'il est plutôt hypocrite. C'est-à-dire quand il écrit à des Français anti-esclavagistes, il se dit anti-esclavagiste. Et quand il vit sa vie à Monticello, eh bien il garde ses esclaves jusqu'à sa mort.
C'est la définition même du caméléon qui s'adapte à chaque couleur.
Exactement.
Et naturellement, vous évoquez le Sud, cette donnée fondamentale des grandes plantations sans travailler des esclaves par rapport au Nord est une donnée majeure dans cette controverse qui anime les premiers pères fondateurs.
Oui, et qui rend le projet constitutionnel presque impossible. Comment fédérer un Nord abolitionniste avec un Sud qui est esclavagiste? Et il y aura de très mauvais compromis. Ça sera le fameux premier amendement qui va compter les esclaves comme les 3/5 d'un homme. C'est une arithmétique raciale absolument scandaleuse, et qui, si on la lit bien, elle est destinée à donner moins de poids au Sud que si on comptait un esclave comme un habitant. Donc en disant 3/5, on va compter un peu moins les esclaves que si on les comptait tous, Mais évidemment, les critiques de l'opération, des gens comme gouverneur Morris, qui est le successeur de Jefferson à Paris, diront pourquoi est-ce qu'on compte pas à ce moment-là les chevaux et les animaux et les meubles, puisqu'on compte les propriétés. Donc tout cela est absurde. Et si on n'avait pas compté les esclaves dans la population qui permettent la représentation à la Chambre des représentants, le Nord l'emportait majoritairement de façon définitive.
Nous retrouverons ce débat sur le vote jusqu'au XXe siècle, oui, bien sûr. Mais pour l'heure, je voudrais que nous montrions comment au XIXe siècle ont évolué les comportements des États-Unis à l'égard de la grande question de la race. Il y a eu à la fois le chapitre théologique et d'autre part l'appel à des théories pseudo-scientifiques.
Oui, la religion déjà se mêle à la science, c'est-à-dire qu'on évoque la Genèse, Noé, Ham, Canaan, enfin le fils de Noé qui a vu son père nu et donc aurait été puni par Dieu et qui lui aurait donné une peau sombre. On ne parle pas d'esclavage à ce moment-là, mais ça sera une des lectures possibles de la Bible.
Et nous avions fait ensemble il y a quelque temps une émission, Denis Lacorne, sur le créationnisme et les débats qui ont continué jusqu'au XXe siècle sur ces choses.
Oui, il y a le créationnisme. D'ailleurs, il y a même des musées de la Bible qui prolifèrent un peu partout aux États-Unis. Il y a une reconstitution de l'Arche de Noé dans le Kentucky. Donc, c'est quelque chose qui préoccupe effectivement toujours les Américains. Et puis, d'autre part, il y a ce qu'on appelle le racisme scientifique, qui est un mélange de craniologie, de phrénologie et d'eugénisme qui va se développer au 19e siècle et qui va prétendre qu'il y a une hiérarchie de races. Et au sommet, bien sûr, il y a les Blancs et en bas de la hiérarchie sont les Noirs.
On a là une influence évidente des théories européennes, de ce qui se dit en Europe, le fameux Gobineau, dans son essai sur l'inégalité des races humaines de 1853, qui évoquait la hiérarchie des races, le mongol à carnation jaunâtre, le nègre de la côte occidentale d'Afrique, dont l'apparence physique rappelle involontairement la structure du singe, et qui mettait au bas de l'échelle les océaniens, ces êtres dégradés, hideux, repoussants, formés en apparence pour servir de transition entre l'homme et la brute pur et simple. Et puis, ça, c'est un homme de lettres, Gobineau, qui d'ailleurs était le secrétaire de
Tocqueville.
De Tocqueville. Et puis, d'autre part, les scientifiques. Alors, pour voir ce que cela a signifié, écoutons donc cet extrait d'un texte de Paul Broca, qui était, vous savez, un grand homme de science, médecin, rival de Pasteur. Paul Broca, sur la direction du trou occipital. Un texte de 1872 qui est ici repris dans Le Temps des sciences de Michel Chouchan sur France Culture le 8 décembre 1998.
La projection crânienne antérieure du blanc, c'est-à-dire la longueur du crâne proprement dit en avant du trou occipital, surpasse de près de 49 millièmes celle du nègre. Ainsi, tandis que chez le nègre, le trou occipital est plus en arrière que chez nous par rapport aux deux incisives, il est au contraire plus en avant par rapport à l'extrémité antérieure du cerveau. D'où il résulte que, pour changer un crâne de blanc en un crâne de nègre, il ne suffirait pas de faire avancer les mâchoires, qu'il faudrait en outre faire reculer le front, c'est-à-dire faire atrophier le cerveau antérieur, et rendre au crâne postérieur, par une compensation insuffisante, une partie de ce qu'on retirerait au crâne antérieur. En d'autres termes, chez le nègre, la région faciale et la région occipitale sont développées au détriment de la région frontale. Paul Broca.
C'est un type d'analyse, Denis Lacorne, qui a fleuri encore tard au 19e et même au 20e siècle. Quelqu'un s'était amusé à constater après la mort d'Einstein que son cerveau était spécialement petit. Et puis c'est le temps de la phrénologie où on se passionne sur la forme des crânes qui révélerait beaucoup de choses sur le tempérament des individus et des groupes.
Et alors cette obsession, cette craniologie, cette cranioscopie a été, dans le fond, déconstruite par un grand anthropologue américain qui est Franz Boas. Et Franz Boas va révéler la chose suivante. Il va prendre des échantillons d'immigrés avant le départ, disons des Italiens et des Juifs en Europe, et puis il va regarder les mêmes aux États-Unis après leur arrivée. Et il constate que la forme des crânes des nouveaux venus qui ont des enfants aux États-Unis va changer. Pourquoi va-t-elle changer? Simplement parce que c'est lié à la façon dont on couche les bébés. Si le bébé est emmailloté, couché sur le dos, il aura un crâne qui sera du type brachycéphale, plutôt rond. Et s'il est couché sur le côté ou sur le ventre, comme aux États-Unis, il n'est pas emmailloté, il aura un crâne plutôt allongé, du type dolichocéphale. Et donc la forme du crâne, elle dépend de l'environnement, de la façon de mettre les bébés dans leur berceau.
C'est le moment dolichocéphale, c'est le moment où un humoriste, je crois que c'est Alphonse Allais, évoquait le dolichocéphale qui, sur le sofa, s'affale et fait la folle. Ça n'a pas de rapport avec notre sujet, mais un moment de sourire peut-être peut acceptable dans cette conversation un peu lourde. Alors donc, il y a cette vision des choses qui se développe à partir d'autres auteurs européens, Vacher de la Pouge, par exemple. Vacher de la Pouge, qui explique qu'il faut parler d'invasion barbare et dire que les émigrés comprennent une masse énorme de fainéants ou de malfaiteurs désireux de vivre aux dépens d'autrui sans effort personnel. On aurait presque envie de faire signer ce propos par quelqu'un d'autre de plus contemporain, non ?
Effectivement, ça serait Trump, aux États-Unis en tout cas, et en France on peut penser à d'autres politiques. Mais Vacher de la Pouge, c'est le traducteur en français de « Le passing of the great race ».
Il faut s'y attarder, là, parce que c'est très important.
De Madison Grant. Mm. Bon, Madison Grant, il écrit en 1916, si je ne me trompe pas, le Passing of the Great Race. Donc, il est très influent à New York. Il appartient, c'est un anthropologue, essayiste, il appartient à différentes sociétés de zoologie et autres. Et
le déclin de la grande race en français, oui.
Et le passing, c'est plus que le déclin, c'est la disparition de la grande race. Et la hantise de Madison Grant et d'autres auteurs, c'est les nouveaux immigrés menacent la suprématie des vrais blancs qui sont des nordiques, anglo-saxons, allemands, scandinaves. Les nouveaux venus, pour lui, c'est monstrueux. Ce sont les Italiens, les Juifs, les Russes, les Polonais. Il menace donc cette race originaire qui serait celle des Aryens, des Blancs d'origine, et il risque de créer une dégénérescence de l'Amérique parce que le taux de fécondité des premiers venus est inférieur à celui des nouveaux venus.
Il y a clairement une obsession de ce qu'un auteur français, Renaud Camus, a appelé le grand remplacement. Vous observez, Denis Lacorne, que Renaud Camus est beaucoup lu et cité aux États-Unis, notamment dans l'entourage de Trump, plus que Michel Foucault, dites-vous, ou que
oui.
Jacques Derrida.
C'est un auteur clé pour l'entourage de Trump, et pas seulement Trump, c'est Steve Miller, qui est son conseiller à la Maison-Blanche, spécialiste des affaires d'immigration, et pas seulement, des affaires d'intérieur aussi. C'est les influenceurs comme Tucker Carlson, qui, lorsqu'il était à Fox News, a fait référence, d'après une enquête du New York Times, au grand remplacement, plus de 400 fois.
Fox News, la grande chaîne de télévision qui oui. porte ses idées et cette idéologie.
Et Tucker Carlson reste très proche de Trump aujourd'hui. Donc c'est une référence clé qui nourrit l'idéologie trumpienne, ainsi que les travaux d'ailleurs, le camp des saints de Jean Raspail, qui font partie des lectures. Mais c'est des lectures qui modernisent, dans le fond, ce dont on a déjà parlé. Madison Grant et des travaux plus récents de Pat Buchanan sur le suicide de l'Amérique ou le déclin de l'Occident, qui sont des thèmes qui survivent aujourd'hui aux États-Unis. Donc ces thèses vont persister très très longtemps, et à tel point qu'on les retrouve dans l'entourage de Trump, malheureusement. L'entourage de Trump, c'est les nouveaux immigrés qui sont ou des musulmans ou des hispaniques ou sont des êtres dangereux.
Criminels, par nature.
Criminels, qui vont empoisonner le sang de l'Amérique, c'est l'expression de Trump, qui ont des mauvais gènes, qui viennent de pays qui sont des shithole nations, des nations de merde, Haïti, certains pays africains, ou Porto Rico, qui est une poubelle flottante. Donc Trump a un vocabulaire extraordinairement méprisant à l'égard des nouveaux immigrés qui sont considérés comme des gens qu'il faut absolument empêcher à tout prix. Sans ça, il y aura ces fameuses mariages mixtes qui vont dégénérer l'Amérique. Donc il y a cette idée de on ne mélange pas les bons gènes avec des mauvais gènes. Il y a une hiérarchie des races et une hiérarchie des gènes.
Cela concerne à la fois les Noirs aux États-Unis et la grande question des immigrés, ceux qui passent par Ellis Island,
oui,
connus par Bobert et Pérec notamment. Je vais vous faire entendre ce que disait Angela Davis, la grande Angela Davis, en français, qu'elle parle admirablement, évoquant son enfance en Alabama, dans Radioscopie de Jacques Chancel, sur France Inter, le 9 mai 1977. Vous allez nous dire, Denis Lacorne, si elle parle beaucoup pour d'autres.
En France, c'est peut-être un peu difficile de comprendre le fait qu'il faut réclamer le droit de se défendre aux États-Unis. Vous savez, je suis née au Sud. J'ai passé toute mon enfance...
Vous êtes née dans l'Alabama.
Dans l'Alabama, oui. Et la première chose dont je me rappelle de toute ma vie, c'est les plastiquages des maisons, oui, des explosions. Mon père, il avait des armes parce qu'il fallait... Nous avons reçu des menaces. Il fallait pouvoir se défendre parce que tout le gouvernement municipal, c'était pendant un moment où George Wallace, il était gouverneur. Alors, c'était la police, c'était le chef du département de police qui a provoqué, qui a organisé ces explosions, qui a dit au Ku Klux Klan qu'il y a une famille noire qui a acheté une maison qui est dans la partie de la ville qui est la partie blanche. Alors, il disait à la radio, ce soir, nous allons voir du sang partout, parce que les Noirs n'ont pas le droit d'envahir nos communautés. Alors, pendant toute mon enfance, la violence était quelque chose de très quotidienne, presque.
Donc, Denis Lacorne, c'était Angela Davis.
Elle montre bien le contraste entre le Sud et le Nord. Le Sud, c'est le pays de tous les dangers. C'est l'endroit où le Ku Klux Klan reste actif encore aujourd'hui. Et donc, oui, il faut se protéger.
Et où après la guerre de sécession, un espoir qu'on avait eu d'une certaine égalité.
C'est la période de reconstruction de 1865 à 1877.
Les carpets bagrasses.
Des Noirs qui sont élus, des gouverneurs noirs, des maires noirs, des sénateurs noirs. Donc là, c'est tout le monde a le droit de vote, mais protégé par les armées fédérales.
Et quand elle se retire ?
Quand elle se retire en 1877, qui est une terrible concession faite par le Nord au Sud, à ce moment-là, tout va être fait pour remettre en cause le droit de vote des Noirs, et tous les moyens sont bons. Les tests de lecture, la clause du grand-père. C'est-à-dire que si vous êtes Noir mais n'avez pas voté avant 1870, qui est l'époque où on donne le droit de vote aux Noirs, si vous pouvez montrer que vous avez voté au moment de la reconstruction, vous avez le droit de vote. Si votre grand-père n'a pas voté à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de vote.
Alors, il faut dire un mot de Jim Crow, expliquer ce que c'est.
Jim le Corbeau, alors c'est une expression qui est liée à des troubadours noirs au XVIIIe siècle.
Des danses.
Se grimaient, dansaient dans la rue et ensuite ont été imités par des blancs qui se grimaient la tête blanche en noir.
En dérision.
En dérision, exactement. Et Jim Crow, ça veut dire l'abandon de l'essentiel des droits de vote et des droits civiques pour les Noirs, avec la ségrégation, la suppression du droit de vote.
Avec quand même, il faut y insister, une décision fondamentale de la Cour suprême, Brown contre Board.
Oui, qui annule une décision plus ancienne, qui est Plessy versus Ferguson, qui crée le concept de séparer mes égaux. Alors, il s'agit de Monsieur Plessy, c'est quelqu'un qui prend le train, il est noir, on le met dans des wagons pour les noirs, qui sont distincts des wagons pour les blancs, et il conteste. Donc, ça va jusqu'à la Cour suprême, et la Cour suprême estime que politiquement, il ne peut pas y avoir de ségrégation, mais socialement, elle existe, la ségrégation, et on ne peut rien faire contre. Donc si les wagons sont identiques de confort entre les Noirs et les Blancs, il n'y a pas de raison de les remettre en cause, et ce qu'on va appeler le principe de « séparer mais égaux ». Et c'est à l'époque où l'un des juges, un dissident, Harlan, va dénoncer le traitement avilissant des Noirs. Il va dire, cette chose tout à fait importante, notre constitution elle est aveugle aux races, il n'y a pas de caste ici, notre constitution est aveugle à la couleur. Mais il faudra attendre très longtemps, donc la règle que vous évoquez, Brown versus Board, 1954, pour mettre fin aux ces règles de ségrégation.
La seconde moitié du XXe siècle est celle d'une progression lente, qui est marquée en particulier par la présidence de Johnson.
Oui, et qui est marquée par la loi, la grande loi du droit de vote, des droits civiques 64 et 1965, qui donne le droit de vote aux Noirs.
Johnson a succédé, on faut le rappeler, à Kennedy après son assassinat en 1963.
Exactement, c'est l'ancien vice-président qui succède et qui, en fait, c'est une décision capitale. Et Johnson a conscience de ses implications, c'est-à-dire qu'il va dire, après le passage de la loi de 1965, on va perdre le Sud. Nous, démocrates, on va perdre le Sud. Les républicains vont s'engouffrer dans la brèche. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec Reagan et Jerry Falwell à l'époque. La majorité morale, en fait, essayait de défendre les académies chrétiennes, c'est-à-dire les académies des écoles libres chrétiennes, qui étaient ségrégationnistes. Donc, pour déjouer les lois de Johnson, on a multiplié des écoles privées peu chères, chrétiennes, où là, la ségrégation était maintenue. Et c'est là-dessus que Reagan, avec le soutien de Jerry Falwell, a réussi son coup, a été élu contre Carter, qui était lui un vrai sudiste et qui était lui un baptiste du Sud, mais un progressiste.
Pour évoquer ce temps-là, cet extrait d'Interactualité du 16 mars 1965 qui évoque le moment où Johnson propose cette loi garantissant le droit de vote aux Noirs, enfin, qui est suivi, vous allez voir, d'une brève interview avec Josephine Baker, qui est vraiment une incarnation, effectivement, vue du point de vue de la France. Elle est maintenant au Panthéon, d'ailleurs. Une incarnation de ce progrès de l'égalité des races.
Il nous faut revenir sur cet important discours du président Johnson au Congrès la nuit passée. Il s'agissait pour le numéro 1 américain de présenter ce projet de loi qui consiste à faire inscrire les Noirs sur les registres électoraux par les autorités fédérales américaines. Cela, Bernadette Marshall, pour donner véritablement aux Noirs le droit de vote, bien sûr, mais aussi pour contrer l'obstruction systématique des États du Sud.
Aucun discours du président Johnson n'aura eu plus de retentissement que celui-là. Le style en rappelle celui de Kennedy, engageant la grande bataille pour les droits civiques. Le président Johnson ne veut pas que la législation sur le droit de vote traîne en longueur. Le temps presse, les Noirs attendent depuis 100 ans et plus l'égalité promise par Lincoln. Il n'y a pas de problème noir, dira le président Johnson. Il n'y a pas de problème du Sud ou du Nord. Il y a un problème américain.
Le président Johnson dressera alors la liste de tous les stratagèmes, de tous les artifices mis à contribution dans certains États du Sud pour empêcher les Noirs de voter.
Lorsqu'un Noir veut se faire inscrire sur les listes électorales, on lui répond que ce n'est pas le jour, que l'heure est passée, ou bien que le fonctionnaire responsable est absent. Et si le Noir parvient à franchir ce premier obstacle, c'est alors l'examen, un examen d'une difficulté incroyable. Il arrive qu'on demande aux postulants de réciter le texte intégral de la Constitution ou bien encore d'expliquer la disposition la plus complexe de la législation de l'État.
Nous avons voulu avoir ici à Paris la réaction des Américains noirs qui vivent dans notre pays et nous avons tout d'abord posé la question au téléphone à la plus parisienne des Américains vivant à Paris. En l'occurrence, elle vit, elle, au Milan, en Dordogne. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Josephine Baker.
Je suis folle de joie. J'ai des chairs de poule parce que tout ceci est naturel. Mais il est merveilleux quand même de penser que le président Johnson, il pousse la chose, enfin, le droit de l'homme, quoi. Il faut absolument abolir toutes ces lois existantes de la discrimination qui soutient que l'homme n'est pas, pas le droit parce qu'il est d'une autre couleur, ou sociale, ou religieuse, ou etc. Il faut que ça s'arrête.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Voilà qui est clair, n'est-ce pas, Denis Lacorne? Je voudrais maintenant que nous en venions à l'autre face de cette grande question que nous évoquons aujourd'hui, c'est-à-dire l'obsession de la race aux États-Unis, la problématique de l'immigration, la racialisation des immigrés européens. Les États-Unis ont absolument besoin des immigrés et en même temps, ils en ont peur ou ils ont envie de les sélectionner.
Oui, ça se passe dans les années 20, disons, 1920. À ce moment-là, on estime qu'il y a beaucoup trop d'immigrés, de nouveaux immigrés qui viennent d'Europe méditerranéenne ou d'Europe centrale et qu'il faut y mettre un terme. Et ce terme, ce sera la grande loi d'immigration de 1924 qui va instaurer des quotas tout à fait stricts, à tel point que, par exemple, le nombre d'Italiens qui pourront débarquer sera réduit à pratiquement une portion infime. Par exemple, en 1914, 280 000 Italiens venaient la seule année 1914 aux États-Unis. Ils ne sont plus que 6 000 en 1925, après le passage de la loi.
Mais ça, c'est une distinction qui est moins raciale, entre guillemets, oui, que ethnique.
Absolument. Et c'est là que se pose la question. Est-ce qu'on a affaire à des races ou non? La racialisation des immigrés, on la trouve dans la littérature populaire et dans les caricatures. Les Irlandais, par exemple, qui ne sont pas des vrais anglo-saxons, sont souvent caricaturés comme des singes avec des fronts bas et une peau très, très sombre. Ensuite, les Italiens seront souvent décrits comme des Africains. Donc, vous avez toujours cette curieuse chose aux États-Unis où les anciens immigrés jalousent les nouveaux immigrés, insultent les nouveaux immigrés, et c'est un conflit qui perdure aujourd'hui.
Ça arrive aussi dans d'autres pays que la barrière se ferme derrière moi.
Absolument.
Il faut insister sur un document fondamental antérieur à la période que vous évoquez, antérieur aux années 20, c'est-à-dire la commission Dillingham, qui a beaucoup à nous dire.
Oui, alors c'est une commission du Sénat des États-Unis et qui utilise des milliers de chercheurs pour analyser les races et les ethnies aux États-Unis.
Et proposer un dictionnaire des races et des peuples.
Exactement.
Tout à fait saisissant en 1911.
Oui, dont le principal auteur est Daniel Volkmar, diplômé de Harvard, qui, entre parenthèses, a soutenu sa thèse en France, intitulée « L'anthropologie philosophique considérée comme base de la morale ». Il a soutenu ça en 1899 à la Faculté des Lettres de Paris. Et dans son immense dictionnaire, il définit, il y a 600 entrées, donc il définit le peuple français, les Ukrainiens, les Russes, etc., les Anglais, avec des caractéristiques qui sont de temps en temps racistes, de temps en temps fondées sur des catégories, formes de crâne et autres, et de temps en temps ne sont pas. Parce qu'il hésite lui-même, puisqu'il parle dictionnaire des races ou des peuples. Et ce qu'il y a de très curieux, si on considère les thèses racialisantes de Volkmar, elles gardent une certaine actualité, puisqu'elles sont toujours utilisées par la CIA. La CIA qui publie un World Fact Book, régulièrement mis à jour, la dernière édition est de 2025, que dit la CIA à propos des Français? Les Français, je cite, sont un mélange de Celtes et de Latins avec des minorités de Teutons, de Slaves, de Nord-Africains, d'Indochinois et de Basques. Voilà comment le peuple français est perçu par la CIA en 2025.
Et on est en pleine contradiction avec les principes français, républicains et universalistes, oui, qui interdisent qu'il n'y ait jamais des statistiques à caractère ethnique ou...
Oui, et ça c'est important de souligner. Dans le fond, on a beaucoup de chance en France de ne pas être racialisé par des recensements. C'était posé la question sous la présidence Sarkozy, est-ce qu'il faut introduire des catégories raciales dans les recensements? Finalement, on ne l'a pas fait. Je crois que c'est une très bonne idée. Et il ne faut jamais oublier que les premiers recensements qui ont racialisé les Français, c'est Vichy, c'est l'époque de Vichy, c'est le statut des Juifs, c'est le premier recensement des autorités militaires, suivi d'un deuxième, et puis le recensement dans anciens. Enfin, il y a toute une série de recensements à la France de Vichy qui, en fait, on a parlé du fichier juif, il s'agit de plusieurs fichiers, et le fait qu'on ait décrit les Juifs étrangers, puis les Juifs tout court comme une race à part, a dévalorisé à tout jamais le concept en France.
Les Américains, au contraire, parlent des Hébreux dans leur quota.
Oui, alors à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que dans les recensements américains, il y a ceux qui résistent aux catégories qu'on veut leur imposer. Et dans le cas américain, les Mexicains ont refusé d'être considérés comme une race à un certain moment, en 1930, où ils étaient recensés comme une race à part. Il y a un débat dans les années 20 au Congrès des États-Unis, au Sénat, sur est-ce qu'il faut introduire la catégorie d'hébreu dans le recensement américain.
Alors ?
Et le consensus, à l'époque, a été non. Non. Et le point de vue des dirigeants juifs, notamment Guggenheim, qui est un sénateur de Colorado, c'est... Nous ne voulons pas être recensés comme une race parce qu'on sait très bien qu'aux États-Unis, si votre race n'est pas celle des Blancs, elle sera infériorisée, vous serez victimisé, donc c'est jamais une bonne chose de le faire. Et là, le consensus a été non, nous n'aurons pas de catégorie hébreu. Donc dans le recensement, il n'y a pas de catégorie hébreu, mais on trouvera ça dans d'autres documents. Bureau d'immigration, lui, va continuer à utiliser cette catégorie plus tard.
On peut dire, vous évoquez Vichy, on peut dire que Hitler, dans Mein Kampf, est explicitement admirateur
De la loi de 1924, tout à fait. Hitler est très impressionné dans alors, son commentaire est un peu confus, mais il est très, très impressionné par cette loi et par le fait que tout est fait pour empêcher les immigrés qui seraient malades ou les immigrés qui viendraient d'Asie pour bloquer des catégories entières d'immigrés. Hitler trouve ça un modèle pour l'Allemagne parce que il veut créer un régime arien où il n'y ait que des blancs, dans le fond.
Je cite Mein Kampf, donc 1925-1926. Oui. L'Union américaine refuse par principe l'immigration aux éléments mauvais sur le plan sanitaire, mais aussi exclut tout simplement certaines races de la naturalisation. Cela signifie qu'elle commence à pas feutrés à revendiquer d'ores et déjà une conception qui est propre à la notion völkisch de l'État. Völkisch, c'est-à-dire...
populaire, le peuple allemand, oui. Finalement, il y a les bonnes et les mauvaises races. Hitler est d'accord pour qu'on mêle ensemble des Aryens, mais il faut surtout pas mêler les Aryens avec d'autres races.
D'ailleurs, Lindbergh était tellement admirateur de Hitler qui aurait pu être élu. C'est le fameux livre de Philip Roth, Uchronique, en 1940 à la place de Roosevelt, était de type, aux yeux de tous, plutôt scandinave. Lindbergh, blond, aux yeux bleus.
Et c'est lui qui a lancé le thème « America first ». C'est pas une invention de Trump. « America first », l'Amérique forteresse qui protège les chrétiens blancs d'origine européenne. C'est un vieux leitmotiv dans l'histoire politique des États-Unis. Et Lindbergh en est un exemple.
Et aujourd'hui, Denis Lacorne, la population blanche reste largement majoritaire aux États-Unis, de plus de 200 millions d'individus, 61% de la population totale. On le dit d'autant mieux que là, il y a le recensement, n'est-ce pas ? La population noire, 12,5%, avec une population asiatique de 6%, et les Amérindiens, natifs d'Alaska, 1%. Nous n'avons pas parlé de la race chinoise, des Chinois et des Japonais. Il faut tout de même en dire un mot, parce que ça a compté dans les controverses aux États-Unis sur ces questions que nous traitons ce matin.
Oui, les Chinois, ils sont nombreux, ils participent à les travaux des mines d'or au milieu du 19e siècle en Californie, puis à la construction des chemins de fer transcontinentaux, donc ils sont très nombreux, mais c'est surtout des hommes. Et on va bloquer l'immigration des Chinois à partir de 1882, si je ne me trompe pas.
Très rudement.
Donc elle sera bloquée. Et surtout, on va leur nier la naturalisation. On va dire que, pour décourager l'immigration des Chinois, on va dire qu'ils ne pourront jamais devenir citoyens s'ils viennent chez nous. Et ça va s'appliquer aussi aux Japonais. Alors il y a des contestations, il y a la question du droit de naissance, du droit du sol, et il y a une décision importante de la Cour suprême Wong King Ark en 1898. Le droit du sol l'emporte, c'est la tradition de la common law anglaise, et c'est un débat qui continue aujourd'hui puisque Trump veut le remettre en cause.
Je voudrais que nous terminions notre conversation en évoquant une sorte de retournement, mais toutes les questions que pose la discrimination positive. En particulier affirmation action, c'est-à-dire avec une théorie critique de la race qui ferait que, au lieu d'aspirer à l'universalisme, on revendiquerait au contraire, dans une fraction de l'opinion, l'appartenance à des minorités.
Oui, alors la discrimination positive, c'est, il y a plusieurs. La pensée évolue aux États-Unis, c'est-à-dire il y a d'abord des arrêts de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, l'arrêt Bakke en 1978, qui nous dit pas de quota dans les universités, c'est trop mécanique, mais la diversité du corps étudiant est souhaitable, et donc on peut donner un coup de pouce, un bonus à un étudiant noir par rapport à un autre étudiant qui serait moins peut-être aussi méritant, mais qui ne serait pas noir. Le problème, et c'est ce que dit la Cour suprême dans une décision très récente de 2023, la décision Student for Fair Admission, qui est une association d'étudiants qui demande une admission équitable dans les universités américaines. Le raisonnement, c'est que oui, vous avez un bonus pour les Noirs, mais ça veut dire un malus pour les Asiatiques et d'autres tout aussi ou plus méritants qui n'ont pas accès dans le fond à l'université.
Et d'autre part, qu'on reconnaît en tant que tel l'existence des races, puisqu'on essaie de compenser les inconvénients qu'elles ont subis, qui est une question de doctrine fondamentale.
Oui, et le raisonnement de la Cour suprême majoritaire, celui de Roberts, le Chief Justice, c'est que on doit juger les individus en fonction de leur mérite personnel. ce n'est pas le groupe, que ce soit une race ou une ethnie, qui doit déterminer le succès ou non d'un individu. Tout doit reposer sur l'individu lui-même. Et les justifications utilisées sur le principe de diversité, la diversité du corps étudiant, la diversité des débats dans les séminaires ou les cours, tout ça est intéressant, mais c'est mal justifié, ça n'explique rien, et donc il vaut mieux y mettre fin. Tout en laissant une petite porte à la question raciale, le juge Roberts admet que dans les dossiers d'admission, et c'est très important pour les étudiants américains, on peut faire état d'un parcours où la question raciale a pu jouer dans l'évolution de tel et tel individu.
Donc on en arrive en certains cas à réaffirmer la race au nom précisément de l'antiracisme.
Et exactement.
C'est au cœur de quelque chose de très important. N'est-ce pas, puisque nous parlons de l'obsession de la race aux États-Unis ce matin, Denis Lacorne?
Oui, c'est à la fois contradictoire, très important, et en même temps une immense difficulté reste aux États-Unis, c'est l'impossibilité de penser le métissage, alors qu'on s'avance vers une Amérique qui est de plus en plus métissée, et avec des catégories qui deviennent de plus en plus ambivalentes, à tel point que les agents du recensement ont décidé en 2024, pour aujourd'hui et pour l'avenir, qu'il n'y aurait plus de distinction entre race et ethnicité. Ça sera race ou ethnicité dans les nouveaux formulaires du recensement qu'on utilise et qu'on verra dans l'année 2030. Donc l'ethnicité est la même chose que la race. Que nous disent les spécialistes, les démographes, que dans le fond, c'est une bonne chose, c'est une des façons d'avancer vers une plus grande déracialisation des États-Unis en multipliant les catégories et en les contestant elles-mêmes. Le flou artistique reste. Et le fait est que, si on pose la question « c'est quoi l'Amérique en 2050 ?», il n'y a pas de réponse claire non plus, parce que si vous comptez les Hispaniques qui se disent blancs, c'est plus 60% des Hispaniques se disent blancs, et vous les ajoutez aux Européens d'origine qui se disent blancs, vous avez une majorité de blancs, même en 2050. Si vous séparez les Hispaniques qui sont aujourd'hui l'équivalent d'une race des blancs, à ce moment-là, vous aurez une majorité de minorités ethniques et vous aurez très probablement une Amérique où les blancs seront minoritaires. Mais vous voyez, ces catégories-là perdent leur signification puisque on ne sait plus exactement ce que ça veut dire. Et le meilleur signe d'un changement fondamental aux États-Unis, d'un signe d'intégration, c'est le mariage mixte.
Je vois que vous avez dit quelque part, Denis Lacorne, que vous étiez pessimiste à court terme et optimiste à long terme, si vous considérez, comme nous l'avons fait ce matin, la question de l'obsession de la race dans la démocratie américaine.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a multiplié les catégories du recensement, y compris les catégories non raciales, il y a une nouvelle catégorie, MENA, originaire du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui n'a plus rien à voir avec la race en tant que telle. Ça comprend des Iraniens, des Algériens, des Tunisiens, des Israéliens, des Libanais, qui, dans le passé, s'identifiaient comme blancs dans la plupart des cas. Mais aujourd'hui, ils ont insisté pour avoir leur catégorie à eux, pour mieux se compter. Et du coup, on a des catégories qui sont liées à l'origine géographique, beaucoup plus qu'à la race ou à l'ethnicité. Alors c'est très curieux, d'ailleurs, les Arméniens ne sont pas inclus, mais il y a les Iraniens, les Israéliens, les Palestiniens ne sont pas mentionnés, etc. Donc il y a un flou artistique qui est maintenu. Mais plus ces catégories se dissolvent et se multiplient, moins on racialise la société, ce qui est une bonne chose, je crois. Peut-être que le meilleur signe de l'intégration des immigrés, c'est les mariages mixtes. En 2015, il y a 17% de mariages mixtes aux États-Unis, 29% chez les Asiatiques, 27% chez les Hispaniques, 18% chez les Noirs, 11% chez les Blancs. Donc on a une Amérique qui devient ethniquement, non pas le melting pot, on en est loin, rêvé par Zinguil, mais qui est ethniquement, je dirais, polyphonique. Même si le racisme existe toujours, les discriminations existent toujours, je crois que si on s'intéresse aux meilleures projections, on peut dire qu'en 2050, plus du tiers des enfants nés aux États-Unis sont sans doute des enfants de couples mixtes. Une Amérique incroyablement diverse, c'est l'avenir qui se prépare, et une Amérique qui sera bien obligée de penser la mixité, le mélange racial, la créolisation, c'est un peu ça l'avenir de l'Amérique.
Denis Lacorne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le livre sur lequel nous avons fondé notre conversation, Denis Lacorne, s'intitule « De la race en Amérique ». Il a été publié tout récemment dans la collection « L'esprit de la cité » chez Gallimard. Et j'y renvoie tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Et puis, précédemment, vous avez publié un livre important aussi qui s'appelait « De la religion en Amérique, essai d'histoire politique » chez Gallimard en 2007, repris en livre de poche en 2012 dans la collection « Folio ». C'est dans la ligne des mêmes recherches ?
Oui, la religion en Amérique, c'était une comparaison de récits nationaux qui sont un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a un récit national qui est républicain et laïque, le mot laïque s'impose en l'occurrence, et un autre récit qui est lié au fameux puritain ou au fameux père pèlerin et qui, lui, s'inscrit dans la religion. Mais c'est un livre qui insiste, dans le fond, sur l'importance de la séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis, laquelle est remise en cause aujourd'hui de façon tout à fait frappante par Trump, et on le voit tous les jours.
Mais les présidents n'ont jamais cessé, au moment de leur inauguration, de prêter serment sur la Bible.
Et de créer, et d'imprimer, et de vendre leur propre Bible, puisque Trump met en vente sa propre, la Bible de Trump.
Nous l'avons sous nos yeux, mot sur cette étrange publication.
Qui est introduite par Lee Greenwood, un chanteur de country music, qui a écrit « God Bless the USA », qui a chanté ça d'ailleurs récemment au moment de la commémoration de la mort de Kirk. Et Lee Greenwood est inclus, sa chanson est inclue dans... Et c'est une Bible étonnante puisqu'elle dit, moi j'ai l'édition de 2024 avant l'élection de Trump, elle dit sur la couverture en plein cuir, c'est une Bible qui met ensemble l'Ancien et le Nouveau Testament, la Constitution des États-Unis, la Déclaration d'indépendance, la chanson de Lee Greenwood, et qui précise que donc le 45e président des États-Unis, le jour où Dieu est intervenu, le 13 juillet 2024, c'est inscrit donc sur la couverture de cette Bible, et c'est le jour où Trump a survécu à une tentative d'assassinat, qui laisse entendre qu'il est lui-même l'élu de Dieu, que Dieu l'a choisi. Donc Trump joue, instrumentalise le religieux pour ses besoins politiques et il se prétend être l'élu de Dieu, choisi par Dieu le 13 juillet 2024.
Denis Lacorne, vous avez publié aussi « Les frontières de la tolérance » chez Gallimard en 2016, qui est également un livre auquel il faut se référer. Je viens de recevoir, j'ai pas eu le temps de le connaître, car il a plus de 600 pages, un gros ouvrage de Francisco Betancourt, qui est un intellectuel, un universitaire britannique, « L'histoire du racisme des croisades au XXe siècle », aux éditions ARPA. Et puis, je voudrais également citer Clément Fabre, ça nous conduit vers l'Extrême-Orient, qui publie aux éditions du CNRS un ouvrage qui s'intitule « À l'ombre de la race, Chine, XIXe siècle », où il étudie l'ensemble des archives des médecins, des diplomates, etc., considérant les Chinois d'un point de vue racial. C'est très riche et très intéressant. Pendant que nous entendons la célèbre chanson interprétée ici par John Baez, « We shall overcome », nous l'emporterons, nous triompherons finalement, je vous rappelle que vous venez d'entendre « Concordance des temps », une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son Adrien Gaza, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, Émilie Lacot, pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et comme souvent, j'ai le goût de rendre hommage aussi à la documentation et à la bibliothèque de Radio France qui me fournissent toujours des dossiers qui sont très utiles pour cette émission.